VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Bagassi Koura et Claire Morin-Jibour en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du mardi 12 juillet 2016. À la une ce soir.
À Gao, au Mali, une marche de protestation tourne au drame.
Bilan provisoire fait état de 3 morts et une trentaine de blessés dans des cas graves.
Et à Djouba, au Soudan du Sud, c'est le cessez-le-feu. Les armes n'ont pas crépité après 4 jours d'affrontements meurtriers entre forces loyalistes et ex-rebelles.
Au Zimbabwe, le pasteur Ewan Mawarire, l'un des leaders du mouvement citoyen de contestation, a été arrêté et inculpé pour incitation à la violence publique.
Et puis ici aux États-Unis, le démocrate Bernie Sanders soutient sa rivale Hillary Clinton pour la présidentielle.
Le président américain qui est arrivé à Dallas au Texas pour rendre hommage aux 5 policiers tués par un tireur isolé.
Et nous aurons l'économie et les sports, bien sûr. Et c'est dans moins d'une dizaine de minutes. Mais d'abord, le journal.
L'actualité sur le continent, une marche de protestation des jeunes de Gao tourne au drame. On compte 3 morts et plusieurs blessés parmi les manifestants. Les jeunes rejettent le DDR et les autorités intérimaires. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Ils étaient une dizaine de jeunes dans la rue pour se manifester contre le DDR et contre les autorités intérimaires. La marche qui a pris départ devant le tombeau des Askia au quartier Gadey était pacifique jusqu'à la place des Martyrs au 3e quartier où les forces de l'ordre sont venues s'interposer contre l'avancée des jeunes vers le gouvernorat. Les manifestants se sentant offensés par l'utilisation des gaz lacrymogènes ont foncé droit sur les policiers qui ont battu retraite. Quelques instants après... Le bilan provisoire fait état de 3 morts et une trentaine de blessés dans des cas graves. Un jeune manifestant nous dit pourquoi ils sont dans la rue.
Tout le monde connaît l'histoire des sédentaires. Nous, on n'a pas d'armes, mais on veut être des militaires. On veut intégrer dans l'armée pour prendre la défense de nos villes. Parce que chacun de nous est informé aujourd'hui de ce qui se passe.
La maison du 2e adjoint au maire de la commune urbaine de Gao a été pillée par des jeunes qui lui reprochent d'avoir diffusé sur les radios locales un avis défavorable à leur marche. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Les Nations Unies dénoncent la persistance des viols en Côte d'Ivoire, notamment contre des enfants, et fustigent l'impunité persistante qui règne à l'égard de leurs auteurs, se basant sur un échantillon de 1129 cas de viols commis entre début 2012 et fin 2015. L'ONU a toutefois établi que 66% des victimes sont des enfants.
Les militants séparatistes nigérians, les Vengeurs du Delta du Niger, ou NDA, annoncent avoir saboté des équipements pétroliers d'Exxon dans le sud du Nigeria, tandis que Shell ferme un de ses oléoducs dans la même région.
Au Cameroun, 2 civils ont été tués dans la nuit de lundi à mardi au cours d'une attaque attribuée aux islamistes nigérians du groupe Boko Haram dans le village de Malumuri, dans l'arrondissement de Kolofata. L'attaque et le bilan ont été confirmés à l'AFP par une source proche des autorités de la région.
En RDC, l'armée congolaise enquête sur l'identité de 2 hommes portant l'uniforme de l'armée ougandaise et tués dimanche lors d'une opération militaire dans la région de Beni. Dimanche soir, des échanges de coups de feu ont opposé les militaires des FRDC à un groupe d'hommes armés près de la localité de Kazindi.
Et puis la cérémonie d'ouverture du dialogue de sortie des crises au Burundi a été annulée à Arusha en Tanzanie. Le gouvernement dénonce la présence de certains opposants. Eric Manirakiza.
C'est la présence de certaines figures de l'opposition et de la société civile qui a révolté la délégation gouvernementale. Bujumbura refuse de discuter avec ceux qui l'accusent d'être derrière une tentative de putsch en mai 2015 et les violences qui ont suivi. Parmi eux, Jean Minani, chef de la plateforme Sénared, l'opposition en exil, et Pacifique Nina Hadzoué, leader des manifestations contre le 3e mandat du président Nkurunziza, tous les deux conviés au dialogue. La facilitation conduite par l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa a donc choisi de rencontrer séparément les partis par groupe d'affinité. Mais certains acteurs clés de l'opposition n'ont pas été invités, même à titre individuel. Il s'agit notamment des frondeurs au sein du parti présidentiel, du MSD de l'ancien journaliste Alexis Sindouhidje et de l'UPRONA, l'ancien parti unique, l'aile qui exige le respect des accords d'Arusha. Ces consultations prendront fin jeudi. Le médiateur devra présenter son plan de sortie de crise à Kigali au Rwanda dimanche en marge du sommet de l'Union africaine et son adoption rendrait contraignant toutes les parties burundaises.
Au Zimbabwe, le pasteur Evan Mawarire, l'un des leaders du mouvement de contestation contre le président Robert Mugabe, a été arrêté et inculpé pour incitation à la violence publique. Il avait appelé à une nouvelle grève jeudi et vendredi. La semaine dernière, une grève générale avait provoqué la fermeture de commerces, d'écoles, de tribunaux et perturbé les transports en commun.
L'opposant ougandais Besigye Kiza, inculpé pour trahison, a été libéré sous caution aujourd'hui par un tribunal de Kampala après avoir purgé 2 mois de détention préventive. Besigye a dû s'acquitter d'une caution de 100 millions de shillings, soit 26 500 euros, pour retrouver la liberté dans l'attente de son procès dont la date n'a pas encore été fixée. L'opposant qui conteste la réélection en février dernier du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 30 ans avait été interpellé le 11 mai après avoir organisé une prestation de serment alternative lors de laquelle il avait été intronisé, lui aussi président.
La situation au Soudan du Sud, le cessez-le-feu était respecté mardi dans la capitale Djouba où les armes sont restées muettes après 4 jours d'affrontements meurtriers entre les forces loyalistes et les ex-rebelles. Des combats qui ont contraint au moins 36 000 personnes à fuir leur foyer. Le point avec Tatiana Mosso.
Aucun coup de feu ou tir d'artillerie n'était entendu mardi et aucun hélicoptère de combat n'était visible dans le ciel de Djouba. L'aéroport reprenait timidement ses activités. De vendredi soir à lundi, la capitale sud-soudanaise a été le théâtre d'affrontements meurtriers entre forces fidèles au président Salva Kiir et ex-rebelles du vice-président Riek Machar. Les deux hommes ont fini par annoncer lundi soir un cessez-le-feu réclamé depuis plusieurs jours par la communauté internationale. Aucun bilan n'est disponible, mais la plupart des acteurs s'accordent à dire que des centaines de personnes ont été tuées dans cette nouvelle flambée de violence qui coïncide avec le 5e anniversaire de l'accession à l'indépendance du plus jeune pays au monde. Ces affrontements mettent en péril un accord de paix signé le 26 août 2015 et font craindre une reprise des combats à grande échelle dans un pays déchiré depuis décembre 2013 par une guerre civile marquée par des massacres interethniques et qui a déjà fait plusieurs dizaines de milliers de morts et près de 3 millions de déplacés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain est arrivé aujourd'hui au Texas. Barack Obama va assister à une cérémonie religieuse en mémoire des 5 policiers tués par un tireur isolé, Anastasi Toudjies.
Barack Obama doit prendre la parole à un service œcuménique. Le défi pour le président américain sera de tenter de rassembler un pays secoué par une semaine de violence sur fond de tensions raciales. Josh Earnest, porte-parole de la Maison-Blanche.
The president recognizes that.
Le président est conscient du fait qu'à travers tout le pays, les gens sont inquiets face aux violences de la semaine écoulée, mais aussi de ces dernières années.
Micah Johnson, le sniper qui a abattu la semaine dernière 5 policiers, a affirmé qu'il voulait tuer des policiers blancs suite à la mort de 2 Noirs sous les balles de la police. Barack Obama va rassembler demain à la Maison-Blanche des représentants des forces de l'ordre, des militants des droits civiques, des universitaires et des élus locaux pour tenter de dégager des solutions concrètes face à la méfiance et la crainte entre les communautés.
États-Unis toujours, le démocrate Bernie Sanders apporte officiellement son soutien à Hillary Clinton 2 semaines avant la convention démocrate qui doit la désigner comme la candidate du parti à l'élection présidentielle américaine. « Je soutiens Hillary Clinton », a déclaré Sanders, 74 ans, lors d'un meeting commun dans un lycée de Portsmouth dans le New Hampshire, dans le nord-est des États-Unis.
En Grande-Bretagne, la future première ministre désignée du Royaume-Uni, Theresa May, est déjà sous pression. La chancelière allemande Angela Merkel et son homologue irlandais lui demandent de clarifier rapidement ses intentions sur la sortie de l'Union européenne et le type de relation qu'elle envisage à l'avenir. Theresa May remplacera David Cameron dès demain mercredi.
Dans le sud de l'Italie, au moins 20 morts et 35 blessés suite à la collision de deux trains dans les Pouilles. Arrivé sur les lieux de cette catastrophe, le ministre italien des Transports, Graziano Del Rio, s'est refusé à donner un bilan de l'accident intervenu en fin de matinée.
Anas Al-Abdeh, chef de la coalition nationale syrienne en exil, basée à Istanbul en Turquie, averti que des centaines de milliers de civils dans les zones tenues par les rebelles à Alep sont confrontés à une crise humanitaire, le régime ayant intensifié ses efforts pour assiéger cette ville.
Avec 10 tués sur les 6 premiers mois de l'année 2016, s'annonce déjà comme la plus sanglante pour les journalistes afghans dans l'histoire de leur pays. C'est le constat du rapport semestriel du Comité pour la sécurité des journalistes afghans qui enregistre 54 incidents violents contre des journalistes cette année.
Et puis après une baisse régulière de l'épidémie du sida dans le monde, la tendance s'est brusquement arrêtée au cours des dernières années, en raison notamment d'une forte augmentation du nombre de cas en Russie, révèle un rapport publié ce mardi par l'ONU Sida. En revanche, la contamination chez les enfants a été réduite de plus de 70% depuis 2001 et continue de décliner. L'ONU s'est fixé pour objectif de mettre fin à l'épidémie en 2030.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et sur voafrique.com.
Voilà un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco et aujourd'hui c'est avec Nathalie Barge.
La Banque indienne d'import-export a accordé une facilité de crédit de 200 millions de dollars au gouvernement sénégalais pour le financement d'une ligne de transmission électrique de 225 kV entre les villes de Tambukonda, Golda et Zingishor. Cette ligne de crédit permettra également de financer l'extension et la réhabilitation du réseau électrique dans les zones autour des villes concernées. La Banque africaine d'import-export et la Banque chinoise d'export-import vont financer l'aménagement de 2000 hectares de zones industrielles en Côte d'Ivoire. Lors du 6e forum sur la coopération sino-africaine tenu en 2015 à Johannesburg, la Chine avait promis d'investir 60 milliards de dollars sur 3 ans en Afrique, dont 10 milliards comme capital initial d'un fonds destiné à soutenir les partenariats industriels. La Banque africaine de développement a annoncé la nomination de l'économiste camerounais Célestin Monga au poste de vice-président en charge de la gouvernance économique et de la gestion du savoir de cette institution financière panafricaine. Le nouveau chef économiste de la BAD a commencé sa carrière à la Banque mondiale en 1997, où il aura passé une vingtaine d'années. Célestin Monga occupait depuis fin 2014 le poste de directeur général adjoint de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel.
Voilà, la Minute Éco était présentée par John Lyndon.
Et maintenant, notre page sport, ce soir avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire.
Jeux Olympiques 2016, Usain Bolt confirmé officiellement sur 100 mètres, 200 mètres et relais.
Ouais, la star du sprint, le Jamaïcain Usain Bolt, qui avait déclaré forfait aux sélections nationales en raison d'une blessure. Il fait partie de la sélection jamaïcaine de 59 sportifs dévoilés pour les Jeux Olympiques de Rio le mois prochain. Bolt a été inscrit sur la liste provisoire des athlètes qui concourront sur le 100 mètres, le 200 mètres et le relais 4 fois 100 mètres. Il pourra donc tenter de devenir le premier athlète à réaliser un triplé lors de 3 Jeux Olympiques consécutifs après ceux de Pékin en 2008 et de Londres en 2012. Bolt risque toutefois de perdre l'une de ses médailles, celle du relais 4 fois 100 mètres, puisque l'un des membres de l'équipe, Nesta Carter, a depuis été contrôlé positif à la suite de réanalyse.
On reparle de Karim Benzema.
L'attaquant français qui a manqué l'Euro 2016 sur décision de la Fédération française de football à la suite de sa mise en examen dans l'affaire du chantage à la sextape. Il n'est pas suspendu à vie, mais laissons du temps au temps, a expliqué le président de la FFF, Noël Le Graët. Il y a une affaire en cours, ce n'est pas une pièce en l'air, il faut voir l'évolution de cette affaire, a expliqué le président de la Fédération française de football lors d'une conférence de presse. L'attaquant du Real Madrid a déposé début mai une requête en nullité sur la procédure qu'il juge déloyale.
Et puis Tour de France cycliste, Froome reste en jaune.
Ouais, l'Australien Michael Matthews de l'équipe Orica a remporté la 10e étape du Tour en battant au sprint ses compagnons d'échappée. Il s'agit de la première victoire d'étape dans la carrière de l'Australien sur la grande boucle. Le Britannique Chris Froome de l'équipe Sky conserve son maillot jaune.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà, Bagassé Kouré, Claire Morin-Jibour en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale ce soir, le Cameroun.
Et oui, Bagassi, au Cameroun, le ministre d'État, ministre de la Justice, a tenu une conférence de presse ce mardi. Laurent Esso devait s'exprimer sur la controverse concernant le nouveau code pénal. Bien d'autres sujets ont été abordés, notamment la grâce accordée à l'avocate française Lydiane Eyoum, pourtant condamnée pour détournement de fonds publics. John Lyndon a joint Christophe Bobiokono, directeur de publication de Kalara, un journal d'information judiciaire basé à Yaoundé.
Très peu de choses nouvelles, parce que en fait, le ministre de la Justice est revenu présenter le projet. Il est venu défendre le contenu du projet de loi portant code pénal qui a été discuté et adopté par le Parlement. Et donc, il a revisité les arguments qu'il avait présentés pendant que ce texte-là était en étude, en examen au Parlement. En tout cas, pour l'observateur que je suis, je n'ai pas noté d'informations nouvelles. Les arguments ont été les mêmes.
Qu'est-ce qui a été dit sur la grâce accordée à l'avocate française d'origine camerounaise, Lydiane Eyoum?
Disons, c'est un aspect que le ministre a abordé en toute fin de son propos liminaire et simplement pour préciser que si Maître Lydiane Eyoum a bénéficié d'une remise totale de la peine restant à purger, il reste que les amendes, en tout cas les condamnations pécuniaires qui pèsent sur elle, demeurent et que bon, l'État pourra faire exécuter ces condamnations-là.
Ce n'est pas la première fois que le président de la République accorde sa grâce à un Français d'origine camerounaise. Est-ce que cela ne fragilise pas l'opération Épervier?
Non, pas du tout. Ce n'est pas le fait d'accorder la grâce qui pénaliserait l'opération Épervier. Mais simplement, le problème, c'est qu'il y a un sentiment grandissant qui laisse penser que les Camerounais ne sont pas suffisamment protégés, leurs problèmes ne sont pas suffisamment pris en compte par ceux qui gouvernent et que c'est plus facile de se montrer clément avec un étranger, notamment un Français, qu'avec un Camerounais.
Alors, sur le code pénal, est-ce que le dossier de l'attribution du marché au cabinet Brent Cross, ça a été évoqué?
Oui, ce dossier a été évoqué, mais dans la phase des questions-réponses, il y a un journaliste qui a demandé si le montant du marché était de 14 milliards de francs. Le ministre a dit que c'était exagéré. Il a demandé ce qui s'était passé. De toutes les manières, le ministre d'État a indiqué qu'il faisait des vérifications par ses services pour, savoir ce qui s'était exactement passé. Mais il a prévenu ceux qui rapportent des informations au sujet du professeur Maurice Kampe, qui était ministre délégué, il faut bien le dire, donc qui était ministre délégué au ministère chargé de la justice, de faire attention parce qu'il y a aussi la possibilité d'être poursuivi pour dénonciation calomnieuse.
Christophe Bobiokono, directeur de publication de Kalara, un journal d'information judiciaire basé à Yaoundé.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Au Tchad, insécurité croissante pour les réfugiés centrafricains du camp d'Amboko. C'est dans le département de la Niapende, situé dans le sud du pays. Ils ont été surpris ce week-end par un groupe d'individus non identifiés qui ont réussi à enlever un jeune commerçant contre rançon. Les précisions de notre correspondant N'Djamena, André Kodmadjingar.
La situation que les réfugiés d'Amboko ont traversée dans la nuit du vendredi à samedi dernier est un couteau remué dans la plaie, car ces personnes qui ont fui les violences dans leur pays d'origine espèrent vivre en toute quiétude sur le sol tchadien. Malheureusement, elles ont été rattrapées par les ennemis de la paix. Témoignage d'un habitant.
Il y a un jeune qui se débrouille à Amboko, là, ils sont venus devant sa porte, là, ils ont coigné la porte. Il dit, mais c'est qui? Ils ont demandé d'ouvrir la porte. Il dit, non, mais vous ne vous présentez pas, comment moi je vais ouvrir la porte? Directement, là, ils ont commencé à faire des tirs. Après, là, ils ont pousser la porte et puis le prendre. Après, les gens étaient sortis faire des bruits, ils ont crié même. Il y avait le détachement de la gendarmerie là, qui était là pour la protection des réfugiés. Là. Personne n'est venu vers eux. Et après avoir tiré, là, ils ont pris le gars à partir. Personne ne connaît la direction.
Très remonté du comportement passif des éléments du détachement de protection des humanitaires et des réfugiés, la population, pour exprimer son mécontentement, a effectué une marche pacifique à l'endroit du dit détachement de protection. Comble de malheur, ces éléments ont tiré à balles réelles sur les manifestants. Joint au téléphone par VOA Afrique, le préfet du département de la Niapende, Gontar Augustin, donne le bilan.
Il y a au total 11 blessés, dont 2 ont succombé suite à leur blessure, 4 gendarmes qui sont chargés de la protection des réfugiés.
Mis en cause, là, sont déjà sur le verrou. Tous les 4 ont été auditionnés sur PV, donc ils seront déférés très rapidement à Doba. Donc c'est le tribunal de grande instance qui a compétence en la matière. Quoi.
Le délégué régional de la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés et des rapatriés du Lougon oriental, Sidjim Ramadan, déplore cette situation.
Nous sommes là pour leur protection. C'est dommage que nous, on commence par être très agressifs jusqu'à ce qu'il y ait des morts d'hommes. Mais c'est un phénomène d'enlèvement là, qui est récurrent depuis quelques mois. Nous avons signalé à la hiérarchie en dernier an. Pour ce qui concerne les réfugiés, ça doit être le 6e cas, si je compte bien, hein, depuis janvier 2016. Donc ce n'est pas nouveau et dommage, chaque fois les forces de l'ordre sont derrière et on n'arrive pas à mettre la main sur les malfrats. Malheureusement, ils exigent des rançons et les parents sont obligés de mettre la main dans la poche. Et donc, c'est devenu un business.
Le chef de la sous-délégation du SR de Gorem, Billy Michel Aoumbamba, a souligné que le consensus a été trouvé entre les autorités locales et le SR pour la prise en charge des victimes. Pour ce jeune enlevé dans le camp, il informe que les ravisseurs ont exigé une somme de 4 millions de francs CFA contre sa libération. André Kodouma Dingar Ndiamena pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Depuis le 1er juillet, seuls les adultes peuvent se marier en Virginie aux États-Unis selon une nouvelle loi remplaçant celle qui permettait à une jeune fille de 13 ans ou moins d'être mariée avec le consentement des parents si elle était enceinte. Aujourd'hui, la loi fixe l'âge minimum à 18 ans. Ce sont près de 4500 enfants de moins de 18 ans qui ont été mariés en Virginie entre 2004 et 2013. Nathalie Barge a joint Nicole Chitam, directrice de la division internationale d'Advocates for Youth à Washington.
C'est surprenant parce qu'on pense qu'ici aux États-Unis, il n'y a pas un problème comme ça de mariage forcé, mais en effet, ça existe et on se rend compte maintenant avec des études qui sont sorties dernièrement que ça existe et il y a des efforts maintenant pour améliorer les lois comme en Virginie où on a cette nouvelle loi finalement qui limite l'âge de mariage à 18 ans. Donc c'est un progrès. C'est un grand progrès.
Et l'on précise que ça peut être 16 ans si l'enfant est émancipé par ordonnance du tribunal. C'est-à-dire que si la fille est enceinte ou qu'elle a le consentement des parents, tout ça, ça ne tient plus du tout.
C'est ça. Les lois, avec les exceptions, c'est toujours un peu plus difficile à appliquer. Mais il y a moins d'exceptions dans cette loi qu'il y avait avant.
Alors donc, en fait, la loi ne stipulait pas d'âge minimum pour le mariage, c'est ça?
Non, c'est ça. Il n'y avait
incroyable.
Pas de minimum. Oui, et c'est une tendance au niveau global, n'est-ce pas? Les pays à travers le monde, il y a une tendance pour améliorer les lois et pour fixer un minimum de 18 ans. Et en effet, beaucoup, beaucoup de pays, et même la plupart des États, ici aux États-Unis, on sait loi, mais des fois, il y a ces exceptions qui font que ça ne protège pas comme on voudrait.
Il faut savoir qu'auparavant, une enfant de 12 ans pouvait être mariée si elle était enceinte avec le consentement de ses parents.
C'est ça. Et c'est souvent avec des hommes qui sont des adultes, beaucoup plus âgés.
Donc, cette loi a été votée pour éviter les mariages forcés, pour éviter la traite des personnes et voir les viols déguisés en mariage. Et on peut très bien imaginer que si l'on part d'une violence, les violences continuent une fois que la personne est mariée avec la jeune fille.
Oui, c'est-à-dire le mariage forcé comme ça n'offre pas de protection. Donc, les violences, les viols augmentent, c'est un grand problème.
Est-ce qu'il y a d'autres États qui sont dans la même situation?
Oui, en effet, le Maryland, Californie, New Jersey, New York, ils considèrent des lois similaires. En New Jersey, par exemple, il y a quand même documentation qui montre qu'il y a eu 3481 mariages forcés entre 1995 et 2012. Et la plupart, c'était des jeunes filles mariées avec des adultes, des hommes plus âgés.
Nicole Chitam, directrice de la division internationale d'Advocate for Youth à Washington. Rendez-vous sur voafrique.com pour l'article et l'interview intégrale.
Dans Washington Forum cette semaine, vague de tensions aux États-Unis avec la mort de deux hommes noirs abattus par des policiers. Dallas, le 7 juillet, un tireur embusqué tue cinq policiers en marge d'une manifestation contre les violences policières, justement. Barack Obama se rend sur place. Alors la question raciale est-elle de nouveau relancée aux États-Unis? Quelle unité pour le pays? Y aura-t-il un autre débat sur le port d'armes? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h, temps universel.
Alors, on reste ici aux États-Unis pour parler de la présidentielle 2016. Le sénateur Bernie Sanders a apporté ce mardi son appui à la candidature de la démocrate présumée Hillary Clinton. De son côté, le candidat républicain présumé continue sa recherche d'un colistier. Bonsoir Timothée Donamaï.
Et bonsoir Bagassi.
Alors, l'appui de Sanders à Clinton n'est pas une surprise.
Et non Bagassi, cet appui à Hillary Clinton était de toute évidence très attendu. Dans le camp de l'ancienne secrétaire d'État, le sénateur du Vermont avait maintenu sa campagne malgré sa défaite aux primaires. Mais tout cela n'est plus qu'un mauvais souvenir pour Mme Clinton. Se tenant ce mardi à ses côtés à Portsmouth dans l'État du New Hampshire, Bernie Sanders s'est dit persuadé que l'ancienne secrétaire d'État sera la prochaine présidente des États-Unis et qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il en soit ainsi. « Nous avons lancé une révolution et cette révolution continue », a dit le sénateur du Vermont en s'attaquant à Donald Trump, qui, selon lui, veut ramener l'Amérique en arrière sur tous les fronts. Madame Clinton a remercié Bernie Sanders, reprenant certaines de ses idées comme la revalorisation du salaire minimum ou la réforme du financement des études supérieures ici aux États-Unis.
Alors, est-ce à dire pour autant que les nombreux partisans de Sanders rejoindront le camp de Clinton?
Rien n'est moins sûr, Bagassi. Grâce à Internet, le sénateur Sanders a réussi à mobiliser une formidable machine électorale avec l'appui des jeunes et des indépendants attirés par son message contre l'establishment. Or, beaucoup de partisans de Sanders perçoivent Mme Clinton comme faisant partie de l'establishment, si bien qu'ils sont réticents à l'idée de voter pour elle. Par ailleurs, certains sondages révèlent que Sanders est en meilleure position pour battre le républicain Donald Trump que Mme Clinton. Qu'à cela ne tienne, les démocrates peuvent maintenant présenter une image d'unité retrouvée, contrairement aux républicains qui continuent d'être divisés par la candidature de Donald Trump.
Alors, de l'autre côté, Donald Trump, le candidat républicain présumé, poursuit, lui, sa recherche d'un colistier.
Une quête rendue difficile par le fait que plusieurs figures montantes du Parti républicain qui l'ont affronté aux primaires se voient mal sur sa liste. C'est le cas du sénateur Marco Rubio de Floride ou encore du sénateur Tom Cruise du Texas. Certains républicains refusent de soutenir Trump et d'autres ne l'appuient que du bout des lèvres. Quelques candidats à la vice-présidence ont tout de même émergé, comme le gouverneur Mike Pence de l'Indiana, le gouverneur Chris Christie du New Jersey ou encore l'ancien président de la Chambre des représentants Newt Gingrich. Et ces derniers temps, Bagassi, on parle beaucoup d'un général à la retraite, Michael Flynn, ancien chef de l'agence de renseignement militaire.
Merci Timothée.
Salut les amis, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
c'est le temps de plier bagage. Hein. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde et à la réalisation, Joselle Morissin. Et à la présentation, moi-même, Bagassi Koura et Claire Morin-Gibour.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On dit un grand merci à nos 1 250 000 fans sur Facebook. On maintient la conversation. Bien sûr, dites-nous ce qui domine l'actualité chez vous. Partagez vos impressions, vos photos, posez-nous des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'informations 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.